Alors bonjour, ou rebonjour. En tout cas, je suis content de reprendre la parole. Ça fait un petit bout de temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, donc, nous sommes avec cette dimanche particulière des églises persécutées et portes ouvertes propose un texte dans 1 Samuel 7. Personnellement, je n'ai pas repris ce qu'ils ont proposé. Il y a 3 propositions de prédication. Mais toujours est-il que je maintiens le texte parce que, en tout cas, ce que personnellement ce texte m'a appris, c'est que quand on prie, il y a une certaine disposition à avoir vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de la communauté. Et c'est ainsi que nous pouvons réellement intercéder. J'ai repris, j'allais dire, l'entièreté de ce texte. Je l'ai divisé en 4 parties. Mais dans chaque partie, j'ai souligné un verset. Pour cette première partie, j'ai souligné donc le verset 4. Où il est dit, et ils servirent l'Éternel seul. Je reprends maintenant la lecture. Les habitants de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel chez eux. Ils la conduisirent dans la maison d'Aminadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour la garder. Ce verset 1 résume d'une manière, en tout cas, je me suis dit, waouh, je ne peux pas faire résumer l'histoire d'Israël en un seul verset comme ça. Parce qu'il s'agit là du rappel comme quoi les enfants d'Israël sont partis d'Égypte, mais Dieu leur a promis, vous allez avoir une terre promise. Je vous ai promis une terre où coule le lait et le miel. Et ils sont partis de l'Égypte. Ils étaient dans le désert. Ils s'approchent de cette terre promise. Et Dieu leur avait bien dit, ce ne sera pas facile. Vous avez des ennemis à abattre avant d'avoir cette terre promise. Donc, ici, ils sont face au dernier ennemi, les Philistins. Les Philistins, ils étaient là pour vaincre vraiment Israël, faire en sorte qu'ils ne viennent pas habiter leur terre, mais qu'ils aillent ailleurs. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu était avec Israël. Et ce qui m'a frappé, déjà dans le témoignage que nous venons d'entendre, aussi bien d'Omar que de Kamala, c'est ça? Ce qui a été souligné, c'est la présence de Dieu. En ce qui concerne Omar, il a rappelé la promesse de Jésus, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Kamala s'est rappelé, Dieu ne nous abandonne pas. Et c'est le cas aussi pour Israël. Seulement, vous savez, avant Samuel, c'est le dernier juge en quelque sorte. Parce que après avoir eu la terre promise, Israël faisait n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre des juges, mais un verset qui revient incessamment, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils veulent. Personne ne pense à la loi de Dieu. Personne ne pense à ce Dieu qui les a accompagnés et qui est là toujours avec eux. Alors ce qui s'est passé, c'est que les Philistins ont dit, mais on va se moquer de ces gens-là. Ils se croient forts. Leur Dieu est fort. Non, notre Dieu est plus fort que leur Dieu. Alors pour cela, ils ont capturer l'arche d'Israël, ils les ont gardés. Et Israël était privé de l'arche, pendant un certain temps. Mais voilà, quand ils ont présenté, c'est-à-dire les Philistins, ils ont mis l'arche d'Israël en face de leur Dieu. Et leur Dieu tombait par terre. Deux fois. Leur Dieu s'est cassé la figure, on peut le dire. Et ils avaient tellement peur qu'ils ont dit au peuple d'Israël, reprenez votre arche, on n'en veut pas. Et comme ça, ils voulaient se débarrasser de l'arche. Mais c'était un moment de réveil pour Israël. Un moment de réveil pour se rappeler que Dieu est avec eux. Un moment de réveil pour qu'ils abandonnent leurs idoles. Donc, l'arche, il a été gardé dans la colline, sur la colline, dans la maison d'Aminadab. Aminadab, c'était un prêtre, un sacrificateur. Je continue la lecture. Il s'était passé bien du temps, depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jearim. 20 années avaient passé. Alors toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Oui, Israël s'est rendu compte qu'on a abandonné quelque chose. Mais vraiment pour eux, c'était quelque chose. Ce n'était pas la personne représentée par quelque chose. Et c'est là que Samuel intervient. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, « Si c'est de tout cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, et servait lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins, ou encore ennemis, adversaires. » Ici, en ce qui me concerne, ça m'a frappé. C'est la condition essentielle. Ce sont les conditions essentielles pour être en communion réelle avec Dieu, pour être vraiment dans une vie de prière pour pouvoir faire quel que soit, que ce soit la louange, que ce soit la reconnaissance, que ce soit la confession, que ce soit l'intercession, eh bien, si il y a des conditions que Dieu donne. Revenez à l'Éternel. Revenir à l'Éternel. Le peuple d'Israël, ils se sont fiés tout simplement à l'arche, à un certain objet de piété, mais ils n'ont pas vu la personne souveraine, Dieu, qui leur a promis sa présence au milieu d'eux. Et c'est pour cela que Samuel dit, revenez à l'Éternel. Première condition, quand on veut prier, c'est vraiment, Seigneur, tu es là, je laisse tout ce que je puisse penser, tout ce que je peux avoir comme action, comme activité, je veux revenir à toi. Et surtout, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés. Autrement dit, il faut abandonner ce que vous pensez de Dieu. Nous pouvons avoir une certaine pensée de Dieu ou des pensées à l'égard de Dieu, mais ça ne veut pas dire que nous avons Dieu. C'est exactement. Les enfants d'Israël étaient fiers de leur arche. Ils ont abandonné le Dieu qui leur a donné ou qui a manifesté sa présence au travers de cette arche. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Et ici, c'est vraiment diriger tout votre être vers l'Éternel. Et c'est en cela que je dis, que je me pose aussi la question, est-ce que je sais vraiment abandonner les petites pensées que j'ai? Ça peut être positif, ça peut être négatif. Est-ce que je peux abandonner les bobos ou les difficultés que j'ai sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan relationnel? Est-ce que je peux abandonner à Dieu tout ce qui pourrait me faire mal, les blessures que j'avais dans mon passé et peut-être des choses que je ressens encore aujourd'hui par rapport à telle ou telle personne qui m'a fait du mal? Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Et il est bien rappelé ici, servez-lui seul. Servez-le seul. C'est le seul Dieu vivant et vrai. Et servir, c'est quoi? C'est vraiment le reconnaître comme maître. Mais non pas le reconnaître tout simplement, mais être prêt aussi à lui obéir, à lui faire entière confiance. C'est un Dieu qui est là, présent. C'est un Dieu qui parle par ses paroles, mais c'est un Dieu aussi qui agit. Il veut délivrer le peuple d'Israël. Oui, Samuel est à la conviction, il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Et j'ai ajouté ennemis, adversaires, soucis, toutes les adversités que nous pouvons connaître dans ce monde. Il vous délivrera. Dieu apporte le salut à une condition, c'est que nous revenions à lui, que nous détournions de tout ce qui n'est pas de lui, nous diriger notre cœur vers lui et le servir lui seul. Alors, les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baal et les Astartés. Les Baal et les Astartés, ce sont toutes les idoles qu'ils avaient entre leurs mains. Et encore une fois, les idoles peuvent être aussi dans nos pensées. Et Dieu sait, en ce qui me concerne par exemple, que j'ai beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Parce que je dois faire attention à ce que je dis. Des fois, on dit n'importe quoi, on choque quelqu'un sans se rendre même compte de ce qui se passe. On me dit, mais pourquoi il réagit comme ça? Ah si, tu l'as fait, tu as dit quelque chose qui ne lui plaît pas ou qui l'a blessé. Mais c'est là les Baal, les Astartés, pour que nous puissions réellement servir Dieu. Dans cette deuxième partie, j'ai souligné le verset 9. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Il, c'est Samuel. Samuel, encore une fois, était juge. Mais il n'était pas reconnu comme juge au départ. Mais Israël l'a pris pour un prophète. C'est quelqu'un qui était de la part, envoyé par Dieu pour rassembler son peuple, pour rappeler la loi de Dieu, rappeler la façon dont il faut se comporter avec Dieu, la façon dont il faut être en relation avec Dieu, mais aussi le servir, servir Dieu. Samuel dit, rassemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils se rassemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Je m'arrête sur ce qu'est Samuel. Il dit bien ici, rassemblez-vous, je prierai l'Éternel pour vous. Autrement dit, je vais intercéder pour vous. Je sais que vous avez péché contre l'Éternel, mais je vais implorer son pardon. Je sais que vous êtes mal comporté avec l'Éternel, avec vos Baals et vos Astartés, mais je vais vous rappeler que l'Éternel est avec nous. Et l'Éternel ne nous abandonne pas. Et suite à ça, les Israélites, ils ont traduit leur repentir, en quelque sorte, par le fait qu'ils ont pris du temps pour se purifier. C'est le sens de puiser de l'eau à l'adversaire devant l'Éternel. Mais ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont confessé aussi leur péché. Nous avons péché contre l'Éternel. Et quand il est dit « Samuel jugea les Israélites », c'est que Samuel s'est imposé, déjà en tant que prophète, celui qui rapporte la parole de Dieu, mais il était là aussi comme, encore une fois, quelqu'un qui intercède entre l'Israël et Dieu. Et quand il jugea, c'est pour annoncer la parole de Dieu, pour corriger les comportements qui ne vont pas et pour ramener les Israélites aussi toujours à se tourner vers Dieu. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins. Malgré leur démarche, leur peur était encore là, la peur de l'ennemi. Et ça m'arrive, malgré le fait que j'ai donné mon cœur à Jésus, des fois les angoisses me tenaillent, des fois les soucis m'envahissent, des fois des mauvaises pensées me visitent. Mais c'est là qu'il faut dire, se rappeler, oui, Dieu est là, il ne nous abandonne pas. Et les Israélites, avec leur peur, au lieu de prier eux-mêmes directement, s'adresser directement à Dieu, ils disent « Hé, Samuel, prie pour nous, s'il te plaît. » Ils disent à Samuel « N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. » C'est exactement. Des fois, on dit « Prie pour moi. » Mais qu'est-ce que ça veut dire « Prie pour moi » ? Et des fois aussi, peut-être nous disons à quelqu'un, « Je prie pour toi. » Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, « Je prie pour toi ?» En ce moment, je lis un petit livre, le titre, c'est « Je prie pour toi. » Mais en fait, c'est une méditation pour chaque jour. Mais c'est vrai que des fois, on dit n'importe quoi, n'importe comment, à quelqu'un, « Je prie pour toi. » Mais quel sens on donne réellement à ça devant cette personne qui est là peut-être pour nous dire ce qui ne va pas chez lui, ou pour dire aussi que ce qui va très bien chez lui, je prie pour toi. Ici, le peuple d'Israël dit, n'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve. Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Samuel, dans ce geste de prendre un jeune taureau, de l'offrir en holocauste, c'est-à-dire il a sacrifié en entier, dans toute son entièreté, cet agneau-là, il a abandonné à Dieu tout ce qui n'était pas bien. Les péchés d'Israël les a mis sur cet agneau-là, et voilà, il l'a offert à l'Éternel. Ceci, non, je vais y revenir après, mais il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça, c'est dire que notre Dieu, l'Éternel, Dieu est vivant, Dieu est maître, comme j'aime le dire souvent, maître de l'histoire, maître des circonstances, Maître dit Dieu, il a été là, il est là et il sera toujours là. Dieu est toujours présent. C'est en cela son éternité. Et ce qui nous encourage, en tout cas ce qui m'encourage, c'est de savoir que justement, je dois garder cette espérance, sachant qu'il m'a précédé, il est là, mais il va encore. Il va m'attendre d'une manière sûre et dans un lieu sûr, l'éternité. C'est le verset que les portes ouvertes a pris pour la journée d'aujourd'hui, pour ce dimanche des églises persécutées. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. En fait, le « jusqu'ici », c'est pour marquer « stop ». Arrêtons-nous là. Prenons conscience. En fait, c'est ça que Samuel veut dire. Prenons conscience que Dieu est avec nous. Prenons conscience que Dieu agit pour nous. Prenons conscience que Dieu parle à nous. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins. Il les mit en déroute. Ils furent battus devant l'Éternel. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Betsar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, il l'appela Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » C'était un signe de reconnaissance. C'était un acte de reconnaissance pour dire que Dieu, effectivement, est là, présent. Encore une fois, il est là, il nous parle, mais il agit en notre faveur. L'Éternel a acquis la victoire pour Israël. Les Philistins furent battus devant Israël. Ce rappel du verset 12, « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus », c'est comme une manière de dire au peuple d'Israël, quand Samuel dit, eh, « Écoute, soyez reconnaissants, mais vraiment reconnaissez que Dieu est là avec nous, que Dieu est vivant. N'allez pas revenir encore à adorer vos idoles. Abandonnez tout ça, mais servez l'Éternel. » Ainsi, les Philistins furent humiliés. Ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Samuel a vécu assez longtemps et il a été juge d'Israël à plus de 40 ans. Mais je rappelle juste la signification de son nom, Samuel. Quand sa maman a été vue comme quelqu'un de stérile, justement, il avait Pénina, parce que Elkana, le père de Samuel, avait deux femmes, Pénina et Anne. Anne, merci. Et Anne l'a consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et Anne, à sa naissance, l'a confiée au responsable du temple. Et c'est ainsi que Samuel a grandi, en voyant l'exemple de cette personne qui est là à toujours servir Dieu, à prier, et puis à rappeler aussi la parole de Dieu. Mais quand Samuel est né, sa mère a dit, non, Samuel, c'est son nom, parce que Dieu m'a écouté. Shemu, elle, je ne sais pas, non, je rappelle plutôt que la confession de foi d'Israël commence par écoute Israël, dans le livre de l'Exode. Shema, Israël, c'est la même racine, Shema et Shemu. Et ici, Dieu a écouté. Dieu exauce. Dieu a exaucé ma prière. Et Samuel est marqué, j'allais dire, par cette vie de prière qu'avait déjà sa mère. Mais cette vie de prière, parce qu'il a vu l'exemple même d'Élie qui était dans le temple à servir Dieu, et il était toujours dans cette attitude de communion, d'intercession, de prier pour les autres, notamment donc pour Israël. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël retournèrent à Israël depuis Ekron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha à la domination des Philistins. Il y eut aussi paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal, de Mitzpah et il jugeait Israël dans toutes ces villes. Puis, il revenait à Rama, où se trouvait sa maison. Il y jugeait Israël et il construisit un autel. Là, ils construisirent là un autel en l'honneur de l'Éternel. Ces quelques versets soulignent réellement qui était Samuel. C'est bien souligné, juge, il jugeait. Il jugeait Israël, c'est presque dans chaque verset. Mais encore une fois, juger, ce n'est pas une histoire de critiquer quelqu'un, mais c'est il accomplissait sa mission, mais en priant, en intercédant pour Israël, mais aussi en les exhortant, les rectifiant aux besoins, les rappeler à l'ordre aux besoins, parce qu'il était là aussi, mais en tant que prêtre, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel, et on a vu tout à l'heure qu'il a offert aussi un sacrifice d'agneau, un holocauste, mais c'est dire aussi que Samuel était un type. Moi, je ne le dis pas souvent à l'Église, mais il y a beaucoup de prédicateurs qui aiment bien voir en quoi tel personnage est un type de Jésus-Christ. C'est-à-dire en quoi, par exemple, Ésaïe est un type de Jésus-Christ, en quoi Joseph était un type de Jésus-Christ. Mais alors, c'est quoi le mot type dans ce cas-là? C'est quelqu'un qui commence à révéler, à porter une espérance, justement, en la personne de tel ou tel prophète, écrivain ou autre, mais projetant un regard vers l'avenir sur Jésus-Christ. Et Samuel, à mon avis, est un type de Jésus-Christ parce que c'est quelqu'un qui a été consacré à Dieu, qui a obéi à Dieu, qui a toujours cherché à plaire à Dieu, et quelqu'un qui était aussi un homme de relation avec Dieu, de communion avec Dieu. Il ne négligeait pas cette attitude de prière, personnelle déjà, mais aussi pour intercéder, pour faire en sorte que si telle personne n'arrive pas à prier, c'était le cas d'Israël, parce qu'ils se sont même détournés de Dieu pour adorer Baal, pour adorer Astarté, eh bien, ils ne désespéraient pas, ils priaient, ils intercédaient pour Israël. Et Jésus, c'est vraiment l'intermédiaire, le médiateur, comme dit l'apôtre Paul à Timothée, c'est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Et c'est en Christ seulement que nous pouvons réellement aussi avoir cette communion réelle avec Dieu, cette communion de cette vie de prière pour être en relation d'abord avec Christ, mais aussi avec l'ensemble de l'Église, l'ensemble des frères et sœurs, et en l'occurrence donc avec les dimanches des frères et sœurs persécutés. Je crois que nous avons aussi à intercéder pour eux. On a vu encore une fois le témoignage d'Omar et de Kamala, mais il y en a bien d'autres qui souffrent. Mais ce que j'apprécie, en tout cas personnellement, dans ces témoignages-là, c'est que vraiment Dieu est là. Dieu est présent. Dieu ne nous abandonne pas. Malgré ce que peuvent nous faire subir les ennemis, les adversités, l'adversaire, tout simplement. L'adversaire est là pour détourner notre regard de Dieu. Mais nous avons vraiment à honorer notre Dieu. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel. C'est la gloire de Dieu que nous avons toujours à avoir à cœur, lui plaire en toutes choses, en toutes circonstances, évidemment avec l'aide de son Saint-Esprit. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cet exemple de Samuel. Rien que par son nom, il nous rappelle que tu es là, tu es l'Éternel, tu es le Dieu qui a tout créé, le Dieu souverain, maître de l'histoire, maître du temps et de l'espace. Tu es là avec nous ici, rassemblés au Neuf Rue des Arables. Tu es là au milieu de ton peuple, réuni ici ou là dans tous les coins du monde. Tu es là aussi, même avec ces personnalités qui vont se réunir à Genève pour penser à la paix en Ukraine. Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers toi. Et nous te prions, Seigneur, pour que les personnes qui passent par des moments difficiles puissent se rappeler que tu ne les abandonnes pas. Que toutes ces personnalités qui se réunissent ici ou là pour chercher la paix aient un regard réellement tourné vers toi pour te reconnaître le seul Dieu vivant et vrai et qu'ils puissent se rappeler que sans toi, tout est vain. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous rappeler combien ton amour est grand, ton amour manifesté en Christ Jésus. Et nous voulons, Seigneur, nous remettre entre tes mains pour que nous puissions aussi offrir toute notre vie comme une offrande vivante qui soit toute à ton honneur. Seigneur, bénis chacun de nous ici présents. Bénis les personnes que nous représentons dans nos familles. Bénis les personnes qui souffrent. Bénis les personnes qui sont malades. Bénis les personnes qui sont dans la détresse. Bénis les personnes qui sont à bout. Seigneur, que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Amen.